Alors, on s'était fixé un peu cet après-midi de prendre le temps d'assimiler, de recevoir ce grand enseignement que le Père Philippe nous a donné ce matin sur le mystère du Verbe et le mystère du Paraclet, qui a suscité beaucoup de questions chez vous. En passant d'un groupe à l'autre, on voit que ça vous a beaucoup interrogé, ce qui est bon parce que ça montre que l'éveil de votre cœur et de votre intelligence était réel. Et au fond, cet après-midi, on va essayer de voir comment ce grand mystère de la Sainte Trinité vient à nous en Jésus et comment on le rencontre. Comment il n'y a pas d'opposition entre cette grande contemplation à laquelle on a été introduite et puis notre vie de tous les jours. Alors on a pioché 2-3 questions. J'en ai recueilli d'autres et puis vous en gardez encore dans le cœur. On ne pourra évidemment pas toutes les aborder. Qu'on posera au Père Philippe pour que chacun puisse repartir avec quelque chose dans le cœur. Alors je vais demander, je pensais à demander les prénoms.
Anne-Laure.
Anne-Laure, de poser la première question.
Quand on voit tous les frères et sœurs, on se dit qu'ils ont nécessairement connu Jésus d'une manière personnelle. Ont-ils tous une connaissance sensible et intime du Christ ? Des chrétiens ont du mal à dire qu'ils connaissent personnellement Jésus. Que leur dire ?
Ce qui m'a toujours beaucoup frappé dans l'évangile de Saint Jean, c'est qu'il est l'évangile des rencontres personnelles de Jésus avec l'homme, la femme, le théologien. éternel. C'est vraiment des choix directs. Et il y a quelque chose de très particulier quand on rencontre quelqu'un. En vous parlant, je vous rencontre tous. C'est bien évident. Je vous réveille, du moins. J'espère que vous ne dormez pas. Et vous me réveillez. Parce que je crois que c'est ce qu'il y a de très important dans la vie humaine. C'est de pouvoir se rencontrer. C'est des personnes qu'on côtoie tous les jours et qu'on ne rencontre jamais. Ça arrive. Et de temps en temps, il y a un petit sourire. C'est une petite rencontre ou un petit adieu. Mais la rencontre est quelque chose de plus. Tu m'intéresses. Je t'écoute. Tiens, ce que tu dis, ah, ça m'intéresse. Ça m'éclaire. Grâce à Dieu, j'ai enseigné toute ma vie de dominicain. J'ai enseigné la philosophie, mais une philosophie qui est une amie de sagesse et qui doit être l'éveil chez les hommes de leur intelligence, de leur responsabilité, de leur cœur. C'est ça la rencontre, c'est s'éveiller mutuellement. Évidemment, quand il s'agit du Christ, on n'a pas besoin de réveiller le Christ. Celui qui dirait « j'ai réveillé le Christ ». Dans l'Écriture, il y a des moments où il est dit, quand on compare les idoles, et il y avait le Dieu qui est vivant, le Dieu qui est créateur. Les idoles, ils ne sont pas source de vie. Tandis que notre Dieu, il est vivant, il est source de vie. Source de vie au niveau de notre vie humaine, de notre vie passionnelle, de notre vie spirituelle, artistique, prudentielle. Il est source surtout notre amour, du véritable amour, et d'éveiller cela en nous. C'est ça que je crois qu'on peut dire, une vraie rencontre. Et c'est ça qui est de si particulier dans notre vie chrétienne, c'est qu'elle est une rencontre avec celui qui nous est envoyé par Dieu. Et qui est Dieu lui-même. Le chrétien a une chance inouïe. C'est qu'il rencontre un homme qui n'est pas comme les autres et qui pourtant est comme les autres. Qui est l'homme le plus intelligent qui ait existé. J'aime bien de rencontrer des hommes intelligents, des femmes intelligentes. Parce que par l'intelligence, je leur fais comprendre qu'il faut se donner et aimer. Et je crois que la vie chrétienne est essentiellement cette rencontre de choix. Il y a un choix libre et personnel. On choisit Jésus. Et tant qu'on n'a pas choisi, on n'est pas vraiment éveillé à notre vie chrétienne. On continue de dormir, se laisser mener. Vous savez, aujourd'hui, on voit ces jouets extraordinaires de gosses qui s'amusent. Je ne sais pas comment ça s'appelle, parce que ces noms, je les oublie. On les voit qui dirigent. on ne les aime pas, on domine. Et puis on est très satisfait de voir que les autres regardent ça. Ah, puis un petit spectacle. La vie chrétienne, c'est pas ça. C'est d'être éveillé quant à notre cœur spirituel. Être capable de choisir. Et de choisir quelqu'un qu'on a découvert pour être celui qui s'intéresse à nous et qui sera capable de s'intéresser à nous à travers toute notre vie et qui sera fidèle dans le choix qu'on fera. Et c'est une personne. C'est ce qui me semble, combien l'évangile de Jean est pour nous, à la fin de ce 20e siècle, dans notre attente du jubilé de l'an 2000, quelque chose de si grand, découvrir que Jésus est vivant, qu'il nous voit, qu'il nous aime, qu'il nous pardonne même si on fait des bêtises et qu'il se sert même de ces bêtises pour être plus proche et qu'il éveille notre intelligence. Le chrétien qui croit dans le Christ sait qu'il se met tout proche d'une source de lumière, de la lumière, de la véritable lumière et la source de tout amour. C'est cette rencontre qui se fait de multiples manières. C'est ça qui est le plus extraordinaire. Quand vous regardez dans l'évangile de Saint Jean, vous voyez que chaque rencontre est différente. J'aime de mettre en parallèle la rencontre avec Nicodème, la rencontre avec la femme adultère, la rencontre avec la Samaritaine, c'est tout le temps différent. Si on veut regarder ce que Jésus éveille, mais ce qui est très extraordinaire, c'est que Jésus n'est pas du tout un professeur. Dans l'Antiquité grecque, il y avait d'excellents professeurs. Socrate. Parce qu'il n'était pas, faisons attention, hein, il n'était pas officiellement Socrate selon Platon, un de ses disciples. Avant de parler, disait, es-tu mon ami? Si tu es mon ami, je peux parler. Si tu n'es pas mon ami, c'est pas la peine, parce que tout ce que je dirai sera mal compris. Si tu es mon ami, au moins, on peut avancer ensemble. On a toujours envie de faire ça. Je ne pouvais pas faire ça avec vous ce matin, parce qu'on ne serait pas ici ce soir. Alors on est obligé, quand on veut communiquer quelque chose, c'est-à-dire ce qu'on vit, ce qu'on aime, et surtout qu'on aime ceux qui sont là et qu'on ne veut pas leur faire perdre de temps. On veut leur donner quelque chose de notre cœur, de notre intelligence, de ce que nous portons en nous, de ce qu'est notre vie. Et on se rencontre. Et petit à petit, lorsqu'il s'agit de Jésus, on comprend que c'est un don merveilleux qui nous est fait. Et que on le reçoit dans la foi, en lui faisant totale confiance dans l'amour. Et que lui ne sera pas en opposition vis-à-vis de la loi, mais qui nous fera comprendre loi est en vue d'épanouir en nous un amour. La loi n'est pas faite uniquement pour être exécutée, pour être utile. La loi est faite pour nous élever, entrer dans une intention de quelqu'un qui nous aime et qui veut qu'on aille plus loin. La loi est faite pour l'amour. On le disait, on l'entendait ce matin avec l'évangile. La loi de l'Ancien Testament est tout entière tournée vers l'amour. Et Jésus prend au point de départ cet amour pour créer des liens d'amitié. C'est pour ça que dans notre monde d'aujourd'hui, je crois qu'il faut reprendre ce que Socrate disait, et au-delà de Socrate, bien au-delà de Socrate, ce que Jésus disait. Quand Jean pose la question, où demeures-tu? Jésus dit, viens et vois. Ça, c'est l'amitié. Viens et vois. Donc, rencontre personnelle. Jésus ne dit pas, j'ai fait mes études à tel endroit. J'ai tel diplôme. Voilà ce que j'ai réussi. Voilà ce qui a raté à cause de telle ou telle opposition. Non, c'est lui qui se présente. Viens et vois. Il dit, je suis la lumière du monde. Je suis le véritable pain. Je suis, c'est lui. Comme c'est personnel. Et des quantités de chrétiens ne découvrent pas ce lien personnel avec Jésus qui fait leur vie. Et c'est cette rencontre personnelle avec Jésus qui est notre vie chrétienne et notre vie humaine. Parce que par Jésus, grâce à lui, nous pouvons rencontrer ceux que la Providence met sur notre route, le prochain.
Père, on aurait tendance, en vous écoutant, à croire que, au fond, croire, c'est rencontrer Jésus. Et on pourrait objecter que précisément, croire, c'est rencontrer quelqu'un qui n'est pas visible. Et quand vous dites, Jésus dit, viens et vois, on ne voit pas grand-chose, nous. Alors, comment on fait pour rencontrer quelqu'un qu'on ne voit pas et...
cette rencontre avec Jésus, une foi qui est vie, qui est important à comprendre. C'est évident que la foi est une épreuve et n'est pas premièrement une expérience. Il y a eu des batailles là-dessus. C'est toujours intéressant, parce que ça prouve qu'il y a une partie de vérité. Faire de la foi uniquement une expérience, c'est ramener la foi au point de vue humain. La première fois qu'on s'est rencontrés, ça fait déjà un petit moment, mais ça reste actuel. Rencontrer quelqu'un. Vous voyez, je n'ai pas tellement parlé d'expérience, je dis rencontrer. On rencontre quelqu'un par l'expérience, on réécoute quelqu'un. Quand il est un envoyé de Dieu, par la foi et dans la foi. Et c'est ce mystère de foi qui est si important de comprendre la grandeur. La foi n'est pas un été noir. C'est-à-dire à la fois, elle m'empêche d'être libre. Combien de fois j'ai entendu ça? vois dans la foi uniquement l'aspect moralisant. Et dans l'aspect moralisant, ce qu'on ne peut pas faire, il y a un chien méchant derrière. Le chien méchant, c'est l'enfer. Il y a un chien qui mord. Mais c'est pas ça du tout la foi. C'est une source de vie. Et de vie divine. C'est un surcroît de vie. On ne vit plus seulement au niveau humain, ce qui est déjà très beau et très grand et merveilleux. On vit à un niveau supérieur. Et c'est la grâce qu'on a reçue. Gratuitement. Mathématisé. Et si on a eu une éducation chrétienne, c'est qu'on en a profité. Parce que la chose la plus difficile aujourd'hui, c'est éduquer la foi. C'est la chose la plus difficile. Parce que pour éduquer la foi, il faut rencontrer des témoins vivants et du mystère de la foi. Si on ne rencontre pas des témoins vivants, on ramène la foi à une série d'affirmations qu'on ne comprend pas, de négations, alors que la foi est premièrement une élévation de notre intelligence pour aller au-delà de ce que nous voyons et d'écouter. C'est impressionnant quand on regarde dans la Bible le premier moment de la foi. Dieu parle à Abraham. Et Abraham écoute. Et pour chacun d'entre nous, il y a un premier moment d'éveil de la foi. Et je crois que c'est cela que nous devons être très attentifs. Et je dirais que le festival dans la lumière de Saint Jean, ça doit être ça. Se retrouver dans un éveil de la foi, d'une foi vivante, d'une foi aimante, d'une foi qui ne se sépare jamais d'amour. Elle est distincte, mais elle ne se sépare jamais d'amour. Parce que nous croyons en un Dieu amour, en un Dieu lumière, qui nous a donné ce qu'il avait de plus grand, si j'ose dire, qui était son Fils bien-aimé. Et c'est ça la foi, recevoir ce don de Dieu. Et on ne vous demande rien du tout. Parce qu'il n'y a pas une banque du Saint-Esprit pour devenir enfant de Dieu. Non. C'est gratuit. Alors je sais qu'aujourd'hui, c'est très dangereux quand c'est gratuit, parce qu'on dit, ah, vous voulez vous en débarrasser. Non, c'est pas comme ça. J'ai rencontré une fois, c'est assez ancien, moi j'étais obligé faire quelquefois pendant la guerre de l'autostop ou après. Alors, on ne savait jamais qui allait vous recevoir. Quand j'ai arrêté, il avait des mains assez extraordinaires. Je les ai regardées tout de suite. Puis il m'a demandé qui j'étais, comme j'étais en Dominicain, c'était facile. Je me vendais tout de suite. Il m'a dit, je suis inspecteur d'impôts. Je lui ai dit, oh, je suis bien situé. Inspecteur d'impôts. Il avait des mains qui étaient de mains. Je ne dis pas que c'était à cause de ça qu'il était inspecteur d'impôts, mais c'est un homme merveilleux du reste. Et on a discuté ensemble. Il avait envie de parler de Dieu. C'est pas moi qui ai commencé. J'avais pas besoin de dire, moi. Mais c'est lui. Il m'a dit, votre Dieu. Il a beaucoup de serviteurs. Il est très imposable. J'avais jamais trouvé ça. Moi, j'aurais pas trouvé. Ça n'était jamais venu à la tête. Donc, je me suis dit que je suis un mauvais serviteur. J'ai oublié ça. Serviteur. C'est vrai, un serviteur, il doit se donner. Il fait quelque chose pour celui dont il est serviteur. Alors, je lui ai montré qu'il y avait des niveaux différents de service. Et qu'on pouvait être serviteur dans l'ordre de l'adoration. Alors là, il ouvre un grand jeu. Et ses mains se sont fermées. Ah, c'était très curieux. Parce que c'est vrai, Dieu est créateur. Reconnaître Dieu, c'est une rencontre avec Dieu, l'adoration. Mais quels sont les chrétiens aujourd'hui qui adorent? Et ces premiers moments, c'est la pédagogie de Dieu. Un seul Dieu, tu adoreras. Et c'est quelque chose de si grand, rencontrer le Créateur. C'est des passages dans la Bible qui sont merveilleux. On ne rencontre pas le Créateur dans la bourrasque. On ne rencontre pas Dieu dans le bruit. Oh, Dieu dans le silence. Dieu qui est source de toute efficacité. Dieu qui crée actuellement mon âme. Si j'ai compris qu'il y avait en moi un trésor, une âme spirituelle, créée par Dieu et directement par Dieu, et que ce contact avec Dieu, il est actuel. C'est pas seulement au moment de ma naissance, au moment de ma conception. Non, il est actuel. Dieu actuellement crée mon âme. C'est pour ça qu'elle ne vieillit pas, mon âme. Ma vieille carcasse vieillit. Tandis que mon âme, non. Et je peux faire que même plus ma carcasse vieillit, plus mon âme se rajeunit. Quand j'ai découvert ça, je n'ai plus peur de vieillesse. Parce que ça se rajeunit. Je me rapproche de Dieu dans une montée. Et cette rencontre, elle se fait lentement. Elle se fait tout le temps. Et j'ai compris que la manière de jamais vieillir, c'était tout le temps d'être dans celui qui a soif de rencontrer, celui qui est plus que lui, celui qui est plus grand que lui. Adorer. Et adorer permet de découvrir une alliance de pure gratuité d'amour.
Père, il y avait une seconde question qui était liée au témoignage que nous a donné tout à l'heure Jacqueline Aubry.
En quoi les apparitions de la Vierge aident-elles à découvrir Jésus? Cela semble parfois diviser les gens. Pourquoi est-ce Marie qui apparaît et pas Jésus?
Parce que Jésus a beaucoup d'amis et qu'il a choisi une mère. C'est vrai, vous touchez là quelque chose de très important. Nous, nous avons une pensée dialectique d'opposition. Pas vous, mais nous, une pensée dialectique d'opposition. C'est que nous croyons toujours que si quelqu'un existe à côté d'un de mes amis, il va nuire à mon ami. C'est faux. C'est oublier ce que c'est que l'esprit. Les mœurs. Du requin, des mœurs de l'araignée, parce que paraît-il, il y avait parmi mes chers confrères dominicains, au seul choix, le plus grand spécialiste des mœurs de l'araignée. Et ça me faisait réfléchir, parce qu'on était sur à Étiol, tout près de la Seine. Je me dis, si un jour la Seine devient méchante, c'est pas son habitude, mais elle devient méchante, on ne sait jamais, les bouleversements, et que le Saulchoir est entièrement recouvert de boue, et qu'on retrouve une seule cellule, ça peut arriver. Une seule cellule, la cellule de ce spécialiste de l'araignée. Et c'était la sexualité de l'araignée qui l'intéressait le plus. On dira, comme c'est curieux, il y a tout un couvent de religieux qui étaient là pour être des spécialistes de l'araignée. On aurait fait ça. Ils faisaient ça dans un but intéressant pour essayer de comprendre ce que c'était que la vie végétative et l'irritabilité de la vie végétative qui fait que nécessairement l'araignée et elle a son domaine par la toile d'araignée. C'est tout à fait naturel. On a l'impression que certains états sont sur le modèle de la toile d'araignée. Là, il y a des gendarmes à droite, à gauche, qui regardent toujours pour voir celui qui tombera dans le piège. La mouche qui tombera et on se jettera dessus. Alors à ce moment-là, évidemment, il faut être unique. Parce que s'il y en a un autre, la moitié des mouches qui sont prises dans le piège, on devra les diviser. On aura la moitié moins. Et c'est très quantitatif, la jalousie. Très quantitatif. Et tout régime qui se prenne uniquement de la cause matérielle, d'aspect matériel et quantitatif, aboutissent forcément à des tyrannies pour être unique et chasser les autres. Et que tous les autres qui ne sont pas dans le système, on les renvoie. Tandis qu'au contraire, si je découvre l'esprit, qu'est-ce que c'est que l'esprit ? Connaître. Quand je connais, je suis au niveau de l'esprit, je n'accapare plus. Je peux aimer vraiment. Et je vois que si j'aime plusieurs, il n'y a pas de rivalité. La rivalité, l'opposition dialectique est toujours à base de quantité. On divise, on oppose. Alors, puisque Dieu est esprit, puisque Dieu est amour, plus Dieu se donne, plus il est proche de nous, et plus il se sert de ses créatures pour nous montrer qu'il nous aime. Jésus, Dieu dans sa sagesse, Jésus, dans sa sagesse, on choisit Marie pour être la mère de Jésus. Et le Père n'a pas fait une crise de jalousie, puisque c'est lui qui l'a voulu. Au contraire, la maternité de Marie montre tout l'amour du Père pour son fils bien-aimé. Et il a voulu qu'il y ait une créature qui puisse être pour Dieu mère, source de vie. C'est extraordinaire. On n'aurait pas pu l'inventer. Ça montre la surabondance de l'amour. Et je crois que c'est comme cela qu'on doit comprendre les serviteurs de Dieu, non pas comme inspecteurs d'impôts, mais comme une surabondance d'amour, et qui montre que Dieu se manifeste de cette manière pour nous, pour que nous comprenions combien son amour dépasse tout. Si Jésus envoie sa mère pour nous aider. On a bien compris ce matin que celle qui a reçu cette grâce ne l'avait pas demandée. Elle l'a reçue gratuitement, tout à fait gratuitement, dans sa simplicité. Et elle la garde, elle garde ça gratuitement. C'est toujours ce qui me frappe le plus dans l'authenticité des visions. C'est de voir que ça ne vieillit pas. Ce n'est pas des souvenirs. Ça ne vieillit pas. J'en ai rencontré plusieurs que je crois authentiques. Eh bien, je vois que ceux qui sont rencontrés avec Dieu, à la différence de leurs souvenirs, ils sont toujours liés à l'imaginaire. Ça vient d'en haut, maître d'en haut. Et ça demeure avec une netteté, une simplicité. Le récit qu'on a entendu est un récit qui ne cherche pas à s'adapter. C'est un récit que tout le monde peut entendre. Rapport d'une mère avec son enfant. Ça reste quelque chose de très simple si la mère reste vraiment mère. C'est la surabondance. Oui. Et Dieu aime de nous rappeler dans un climat de vie comme le nôtre, société de consommation, que au-delà de la consommation, au-delà de ce que représentent les rapports économiques, il y a des rapports de gratuité qui sont des rapports d'amour. Et je crois que ces apparitions, c'est pour nous rappeler la gratuité de Dieu dans son amour. Alors je sais très bien qu'il faut considérer toujours que la foi chrétienne dépasse ces apparitions. Ma foi repose sur la parole de Dieu et me met directement à travers la révélation en contact avec Dieu. Mais si Dieu me donne des signes, je ne les méprise pas. Ça peut m'aider. Mais ce n'est pas l'absolu. La petite Bernadette ne vivait pas des apparitions. L'apparition était pour elle comme un moyen divin d'entrer vers quelque chose de plus absolu. Et c'est là on voit tout de suite l'authenticité des apparitions. Celui qui accapare une apparition comme son bien, il se revêt du manteau des saints, de la sainteté. Et il accapare. Alors ça, c'est quoi de Dieu? Je suis quelqu'un d'intéressant parce que j'ai eu des apparitions. Non. L'apparition est une gratuité. Qui m'est donné gratuitement. Et ce n'est pas quelque chose qui est mon bien. Il reste comme un don gratuit que Dieu m'a donné. Je peux le communiquer à ceux qui me demandent qu'est-ce que vous avez vécu. Très bien. Et ceux qui vivent vraiment de ces dons de Dieu, c'est pour ne pas s'arrêter à ces dons. C'est pour découvrir le mystère de la présence de Marie, le mystère de la présence du Christ. Et on ne fait pas une théologie à partir des apparitions. Notre contact profond avec Jésus est dans la foi. Ce que Dieu lui-même m'a dit sur Jésus dans la révélation. Mon amour à son égard, mon amitié divine avec lui, comment je transforme ma vie grâce à ce lien qu'il y a avec Jésus. Grâce à ce lien qu'il y a avec Jésus, je désire vivre d'un esprit de pauvreté, de béatitude. Je désire vivre d'un esprit de douceur. Je désire vivre d'un esprit de don, de miséricorde. Grâce à cette amitié profonde que j'ai avec Jésus, où je désire être le plus proche de lui. Mais ce que l'apparition comme telle ne fait pas, mais l'apparition est au service de mon amitié divine avec Jésus, de mes liens avec lui, pour transformer mon cœur, transformer mon intelligence.
Il y avait une troisième question qui est précisément pour ceux qui n'ont pas la grâce d'avoir des apparitions. Ce que c'est que la bagarre de la vie quotidienne pour croire.
On se posait la question de savoir comment on peut rencontrer le Christ dans le monde du travail alors qu'on nous demande de produire énormément, on doit avoir du rendement. Et puis moi, je constate que finalement, j'arrive le soir, je fais ouf, quelle journée. Et puis le Christ, j'y ai pas trop pensé, pas songé du tout. Comment faire, quoi, comment vivre?
C'est déjà une grande grâce de s'apercevoir de ça. C'est la grâce radicale de voir qu'on vit dans un monde où la culture chrétienne disparaît. Il n'y a plus de culture chrétienne aujourd'hui dans notre monde. Vous voyez, il y a encore des familles chrétiennes. Il n'y a plus beaucoup d'art chrétien. Il n'y a plus beaucoup d'universités chrétiennes. La culture est à un autre niveau, inférieur, mais il se croit supérieur, parce que pour eux c'est une sorte de libération. Mais ce n'est pas la libération qui est une finalité. On se libère pour aimer plus et pour avoir un regard d'une plus grande vérité. Ce que vous me dites, Emma, c'est très, très vrai. Et nous le constatons tous à des niveaux différents. Et puis, on voit que tout va très vite. Ce qui est le caractère propre de notre siècle. On n'est plus dans une vitesse humaine. Et c'est pour ça que pour le cœur humain, c'est si difficile à supporter. On est dans un rythme qui devient artificiel. Combien de temps ça peut durer? Je ne sais pas. Il ne faut pas être un prophète de malheur. Mais beaucoup y réfléchissent à ça, aujourd'hui. Ça me frappe énormément de voir ça. Parce que la caractéristique spéciale de notre monde d'aujourd'hui, c'est la rapidité. C'est le siècle de la vitesse. Comme regardez le début du siècle et ce qui se met maintenant. Vous voyez, de temps en temps, quand j'attends à la gare du Creusot et que je vois les TGV qui passent avec une ravine, ceux qui ne s'arrêtent pas, c'est ça qui est intéressant à regarder. Ils passent avec une telle rapidité. Et alors, je pense aux anges.